ceux qui étaient au courant de l'événement, merci d'être venus pour cette quatrième et dernière journée à laquelle Béton Salon participe à la Fête de la Science. Pour vous présenter très très rapidement le lieu, peut-être que certains connaissent déjà, donc Béton Salon est un centre d'art et de recherche implanté depuis 2007 au Grand Moulin, donc au rez-de-chaussée de l'Université Paris 7. Et l'idée est vraiment de créer des ponts entre l'art et différents domaines de recherche, que ce soit les études culturelles, les sciences, parfois l'anthropologie. Et donc pour la Fête de la Science qui se déroule en ce moment, on a effectivement proposé à un certain nombre de chercheurs de venir s'emparer d'un élément de l'exposition qui leur sert de point de départ pour dérouler leur récit et leur vision de la cristallographie en lien avec ce phénomène de cristallisation qui est le thème cette année de la Fête de la Science. Et donc ça nous a paru faire sens de faire ça ici dans l'exposition de Camille Enrault, qui d'une certaine manière est elle-même une forme de récit qui cristallise différentes représentations de l'univers et de l'histoire de l'univers. Pour vous en dire un mot très très rapide, c'est une exposition qui résulte d'une recherche que Camille Enrault a commencée en 2012 à l'occasion d'une résidence à la Smithsonian Institution de Washington, qui est donc une institution qui réunit différents musées aux États-Unis. Et donc elle a eu l'opportunité de vraiment collaborer avec différents chercheurs là-bas, décououvrir les réserves des musées, etc. Et elle a été très très intéressée par la manière dont les musées eux-mêmes constituent une forme de classification du monde et de représentation totalisante du monde, et elle s'est mise à collecter tout un tas d'images, d'objets, de récits, de mythologies, etc., qui représentent le monde dans sa totalité, enfin qui essayent de représenter le monde dans sa totalité. Et elle a développé comme ça une forme d'intérêt pour le fait que dans chaque civilisation, il y a cette nécessité presque d'essayer de créer une représentation globalisante du monde qui nous entoure et qui est une manière d'essayer de le maîtriser finalement. Et donc que ce soit à travers les sciences, les systèmes mathématiques, philosophiques, les religions, les mythes, il y a toujours cette volonté de créer une représentation totalisante de l'univers. Ce que Camille Enrault fait également ici dans cette exposition, puisqu'elle recrée une forme de mythologie personnelle, où chaque mur correspond à un point cardinal, un âge de la vie, un élément philosophique de Leibniz et un élément naturel. Donc si vous avez des questions après sur l'exposition, je pourrais y répondre, on pourra en discuter tous ensemble, mais maintenant je vais laisser la parole à Isabelle Barberis, qui est donc maître de conférence en art de la scène et du spectacle vivant à Paris 7.
Bonjour, alors merci Garance, et merci d'être venue, puis de vous proposer de m'écouter. Donc comme Garance le rappelait, on nous a demandé à moi ainsi qu'à quatre autres collègues qui sont scientifiques, de réagir à un objet de cette exposition. Vous voyez qu'ils sont nombreux, le choix n'était pas forcément facile. D'une part, pour faire le lien avec la cristallographie, alors moi n'étant pas scientifique, ça m'a peut-être posé plus de difficultés sur ce plan-là que mes collègues scientifiques. Donc d'une part, de faire le lien avec la cristallographie, et d'autre part, de faire le lien avec notre domaine de spécialité. Donc ça fait trois choses qu'il a fallu essayer de tresser entre l'exposition, le cristal et la cristallographie, et puis me concernant les arts du spectacle et les performance studies, les études de la performance. Alors pour ma part, ce que j'ai choisi de faire, c'est non pas de prendre l'exposition dans sa globalité, mais de partir d'un fragment pour vous parler un petit peu de la performance. Et ce fragment, en fait, est avec l'idée derrière de partir d'un fragment pour raconter peut-être quelque chose qui serait de l'ordre d'une totalité, comme si le fragment contenait quelque chose de, non pas d'universel, mais de total. Alors le fragment que j'ai choisi duquel j'ai choisi de partir, c'est une figure aussi, et c'est l'ours. Alors l'ours, je vais vous montrer, il y a deux ours dans l'exposition. Il y en a un ici, Gunning Mud, donc qui est lié aux catastrophes naturelles, sur le mur, je crois, de l'adolescence. Nous en avons un autre, ici, juste à côté des désordres bipolaires, et du moment où le mur aussi opère un angle droit vers la fin de l'existence. Il est ici, c'est un ours qui s'introduit dans un habitacle humain. J'ai failli d'ailleurs partir vraiment de l'angle à un moment donné, puis je me suis dit que j'allais partir de l'ours. Alors, je vais essayer aussi de procéder un petit peu comme la narration de cette installation, donc en essayant de faire une boucle, de faire une histoire qui se boucle, et en procédant par petites évocations hétéroclites, comme si donc je suivais une idée fixe qui est l'idée de l'ours. Je mettrai à votre disposition à la fin les deux textes qui sont deux histoires à propos du théâtre et de la performance des arts de la scène où intervient cet ours. D'ailleurs, je peux peut-être les donner maintenant. Ouais, il y a 5 pages. Et au départ, il y a des images de lustres de théâtre et de lustres tout court. C'est un petit peu le lien que je suis parvenue à faire, pardon, avec la cristallographie, le lustre en cristal. Et il me semble aussi qu'un lien qu'on peut trouver entre cette installation et le théâtre, c'est qu'il n'y a pas d'extériorité, on est à l'intérieur d'un espace. Et si vous écoutez aussi le son, il y a de temps en temps la nappe sonore est dérangée, désorganisée par des petits toussotements qui sont aussi ceux du public et de la salle de théâtre. On peut s'imaginer ça. Donc je vous ai montré ces ours présents à deux endroits. Je suis donc entrée avec cette idée fixe de retrouver l'ours. Il me semble que c'est une manière aussi dont on peut visiter cette installation, c'est-à-dire entrer avec une idée fixe et avec l'idée qu'on va retrouver quelque chose. Alors, pourquoi partir du lustre de théâtre? Je vous l'ai dit, à cause du lustre en cristal et aussi de la manière dont le lustre peut être un symbole de totalité et aussi d'organisation parfaite. Comme l'est le cristal, souvent, par exemple dans la poésie, il est associé à l'image, la représentation de la perfection. Alors je voudrais, donc le lustre est particulièrement présent comme métaphore de la poésie et aussi comme métaphore de la création poétique chez Mallarmé. Si vous lisez ces crayonnés au théâtre en reviennent souvent à la figure du lustre, qu'il faut entendre comme l'objet matériel, artificiel, qui surplombe le théâtre, comme ce qui éclaire non seulement la scène, mais bien évidemment aussi le public, et peut-être comme représentation, cristallisation figurée de ce public, et le lustre aussi comme ce qui dégage la lumière, ça serait peut-être l'essence même de la poésie. Aussi un symbole de luxe et d'excès pour Mallarmé. Et je voudrais vous raconter donc une histoire tirée de Mallarmé, d'un texte qui est assez peu connu, merci Garance, que je mets à votre disposition. Il y a deux textes, et ce texte que j'aime beaucoup s'appelle « Un spectacle interrompu ». Et donc c'est un texte de 1875, où Mallarmé va rapporter un fait divers fictif, un fait divers qu'il invente, et qui pour lui est l'image de la performance et du théâtre. Alors Mallarmé va raconter donc ce qui a, dans ce spectacle fictif, frappé le regard du poète, je le cite. Et frappé le regard du poète, c'est-à-dire un regard pré-attentionnel, un regard qui n'est pas vraiment concentré sur la représentation. Un petit peu comme le regard ici qu'on est amené à le regard flâneur, que cette installation ici incite à promener justement sur les différentes évocations que vous trouvez ici, parfois de manière parfois très organisée et parfois très désorganisée. Et alors Mallarmé va reprendre les thèmes de la foire et du cirque pour rapporter un incident, et c'est peut-être souvent le cas avec l'ours, qui est une figure, ici on le voit bien, donc il s'introduit dans l'habitacle humain, qui est une figure incidentielle. Et là, on va retrouver l'ours en tant que figure incidentielle. Alors Mallarmé rapporte que lors d'un spectacle de variété, dans un théâtre, ce qu'on appelait les théâtres de spécialité au XIXe siècle, par exemple les spectacles de pantomime, il invente d'ailleurs le nom de ce théâtre, qui n'existe pas, le théâtre des prodigalités. Donc il y a cette idée aussi de prodigalité, de quantité que l'on retrouve ici. Eh bien, assistant à une pantomime qui était un genre très en vogue à l'époque, entre un clown, une danseuse et un mythe, eh bien, il se serait passé quelque chose, un incident qui aurait pu être grave, c'est-à-dire à un moment donné, l'ours se jette sur le clown. Alors l'ours se jette sur le clown et la catastrophe est évitée de justesse. puisque quelqu'un dans le public, c'est là où on frôle quelque chose de, voilà, qui n'a rien à voir avec le réalisme, jette un quartier de viande sanguinolent sur la scène, ce qui permet à l'animal donc de détourner son appétit du pauvre clown qui est comme ça attaqué par l'ours de cirque. Et en fait, Mallarmé raconte que cette irruption de l'ours, enfin pas cette irruption de l'ours, mais ce dérèglement de l'ours qui revient en quelque sorte à son état sauvage, va donner lieu à un spectacle dans le spectacle et pour lui, au vrai spectacle qui l'intéresse. Parce que pour Mallarmé, on passe à un autre degré de la représentation, un degré alors batmologique, la batmologie c'est la science des degrés, donc on passe à un autre degré d'interprétation. Et alors, cette interruption provoquée par l'ours, qui revient en quelque sorte à son état naturel, ici il me semble aussi fortement évoqué dans l'installation, eh bien pour Mallarmé, non seulement c'est ça qui intéresse le regard du poète, mais c'est ce qui représente ce qu'il appelle l'imperfection nécessaire à la poésie. Alors l'imperfection nécessaire à la poésie aussi, ça m'a parlé par rapport à cette exposition qui travaille beaucoup sur l'ordre et le désordre. Et c'est cette imperfection qui est, pour Mallarmé, intéressante. Donc, l'idéalisme de Mallarmé, puisque la poétique de Mallarmé, elle est très idéaliste, ce qui est intéressant, ce qui est aussi étrange, c'est qu'elle repose en grande partie sur l'imperfection. Pour qu'il y ait art, il faut qu'il y ait désordre, il faut qu'il y ait foire, voire foirade, ratage. C'est un paradigme de l'art contemporain, par exemple, que l'on va retrouver plus tard, mais qui annonce aussi Marcel Duchamp lorsqu'il parle du coefficient d'art qui mesure le degré de ratage pour lui de toute œuvre d'art contemporaine. L'œuvre d'art contemporaine est forcément ratée, et ce qui permet de la mesurer, c'est son coefficient de ratage en quelque sorte. Et Mallarmé déjà situe le désordre, le ratage à l'intersection du réel et de la fiction comme mesure d'observation d'une œuvre d'art. Il parle aussi de fiction terre à terre et d'un spectacle où il ne s'est passé presque rien, mais où il y a quand même eu un incident qui est venu introduire cette imperfection nécessaire, qui est venu aussi réveiller l'assoupissement, l'anesthésie, dit-il, du spectateur. Et donc, il va se livrer dans ce texte que je vous ai remis à un éloge du ratage, de l'incident, du désordre, de l'interruption, comme brèche pour l'imaginaire. Alors, tout ça se déroule sous la lumière imperturbable du lustre, qui, lui, ne fait pas de différence entre les registres. Il est, je cite Mallarmé, le dispensataire moderne de l'extase, avec l'impartialité d'une chose élémentaire, le gaz, dans les hauteurs de la salle, duquel émane un bruit lumineux d'attente. Les pleins feux chez Mallarmé, les pleins feux du lustre, font partie de son idée, de son idéalisme du théâtre. Et si vous êtes curieux de scènes contemporaines, vous savez peut-être que les pleins feux, c'est un des paradigmes de la scène contemporaine où souvent, on ne plonge plus les spectateurs dans l'obscurité, mais on installe les pleins feux, et c'est ce à quoi avait déjà pensé Mallarmé. Ce texte, on peut le situer à l'invention de la mise en scène, mais il est complètement opposé à un autre grand artiste que l'on considère comme inventeur de la mise en scène, qui est Wagner. Ici, donc, l'invention de la mise en scène, elle se situerait non pas du côté de l'idéalisme wagnérien de la perfection, mais de l'imperfection. Et j'effectue un petit retour dans le temps. Alors là, si vous voulez, on était un petit peu du côté de l'ours qui fait irruption. Peut-être on peut... à me déplacer, puisqu'il faut annuler un tout petit peu les choses, du côté de cet autre ours, pour vous parler d'un texte antérieur, qui est aussi donc reproduit, qui est un texte très célèbre de Kleist, qui est un traité sur la marionnette, texte antérieur, alors cette fois-ci dans lequel l'ours ne va plus incarner l'imperfection nécessaire, ce qui est l'imperfection nécessaire pour Mallarmé, mais il est l'image de la perfection dans la représentation théâtrale. Alors, Heinrich von Kleist propose différentes figures hiérarchisées de la perfection dans son traité sur la marionnette. Alors, la première, il va les classer par ordre de libération, par ordre de beauté, de ce qu'il appelle la grâce, et ce qui, dans son idéalisme de la scène, parvient à une pureté, à une autonomie totale. L'ours va être celui qui n'imite rien, donc qui s'extirpe de la mimesis, de la représentation théâtrale, celui qui ne reproduit rien, celui qui ne duplique pas, et la figure qui tout simplement est. Alors, ces trois figures de la perfection, c'est d'abord l'éphèbe qui danse, qui est surpassée par la marionnette au mouvement abstrait, qui elle est encore plus autonome de la référence au réel, cette marionnette qui alterne les courbes, les déliés, mais la marionnette elle-même va être supplantée par l'ours. L'ours, finalement, si vous voulez, il est décrit comme... c'est aussi un ours qui est combatif. Il me semble que l'ours aussi a quelque chose à la fois de débonnaire et d'épique. Et il est... Ce n'est évidemment pas le terme qu'emploie Kleist, mais moi, quand je le lis, il comparait à une sorte de ninja qui va parer tous les coups de son adversaire, mais avec une facilité, une grâce, une simplicité exemplaire. Il est donc l'image d'une émancipation absolue, de l'imitation. Il n'a plus besoin de rien imiter. Alors aujourd'hui, l'ours, c'est une figure extrêmement nostalgique. Il surgit ici de la même manière que dans ces deux histoires de Mallarmé et de Kleist, puisque en fait, dans le texte de Kleist, dont je ne vous ai distribué qu'un extrait, il apparaît aussi, puisque c'est à la fin du texte de Kleist. Et c'est comme le reste de son texte, c'est-à-dire c'est vraiment une apparition après la marionnette qui vient la supplanter. Et aujourd'hui aussi, cet ours-là, qu'on entrevoit aussi dans l'exposition et dans l'installation, qui fonctionne aussi comme ça, comme des fenêtres plus ou moins répétitives dans cet imaginaire qui tente d'être totalisant, il apparaît. Et il me semble que c'est aussi une allégorie, alors certes vivante, mais aussi survivante, donc de notre 21e siècle, de la catastrophe climatique, ce sur quoi, bien entendu, hein, ces deux images de presse insistent fortement. C'est l'ours qui dérive sur un morceau de banquise. C'est l'ours, ici, réintroduit dans les zones montagneuses européennes, dans une promiscuité inédite avec l'homme, et donc il va s'introduire dans les habitats humains, en visiteur aussi de poubelles. Donc je crois que, alors voilà, j'ai essayé de boucler la boucle. Si on veut en revenir à la cristallographie, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que non seulement il y a cette petite anecdote qui fait que le lustre est un symbole très très important chez Mallarmé de sa conception du théâtre, mais c'est aussi un symbole, comme je vous le disais, le cristal de perfection. Certains scientifiques, vous avez compris, je ne suis pas du tout spécialiste, mais disent qu'il y a quand même des résidus organiques dans le cristal, donc des résidus vivants. C'est un symbole de perfection, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les deux visions aussi de la perfection. L'une pré-moderne, on va dire, de Kleist, cet ours ninja qui incarne l'émancipation de la marionnette, et l'autre, cette imperfection nécessaire qui est donc le désordre que l'ours, élément naturel, vient introduire dans un environnement on ne peut plus organiser, on ne peut plus artificiel, on ne peut plus scinder de la nature, qui est la scène de théâtre. C'est la manière un petit peu que j'avais de faire le lien entre ces trois éléments, le cristal, l'installation de Camille Henrot, bien entendu, et puis de vous parler un tout petit peu aussi de l'histoire du théâtre et des prémices du théâtre contemporain.
Merci.
Voilà, j'en discute très volontiers avec vous, et puis voilà, c'était pour moi un exercice très amusant à faire.
Je suis frappée par la diversité des lustres.
J'ai suivi un procédé que pratique Camille Roux, qui me corrige un garant s'il dit des bêtises, mais qui est aussi la collection un peu littérale, lustre. Donc j'ai fonctionné de manière littérale et en faisant une recherche Google, images, j'en ai récolté un certain nombre, plus ou moins explicites.
Entre le fantomatique, l'ouverture phallique et tout le reste, c'est impressionnant. Hein. C'est marrant parce que du coup, les symboliques masculines et féminines sont représentées par ce seul objet.
Exactement, c'est vrai. Ouais.
Ça peut être facile de choisir.
Ah, au début, mon idée fixe, c'était la tortue. Parce qu'en plus, il y a deux tortues aussi. Et parce que non seulement j'ai nagé avec une tortue géante cet été dans les Cyclades, donc c'était vraiment une rencontre très, très, très importante. Et alors, si j'ai bien compris aussi, il y a une histoire, au démarrage de cette installation de The Pale Fox, il y a une histoire de rencontre de Camille Henrot avec une tortue. Alors, quand j'ai découvert ça, moi-même entrant ici en me disant « je vais trouver une tortue », et d'apprendre que Camille Henrot, sur les îles Vanuatu, c'est ça ?
C'est à l'origine du poster rack et des photos que vous voyez ici de coups de soleil, en fait, pour raconter très brièvement l'anecdote, parce que j'étais moi-même assez étonnée par ces photographies. J'ai un peu demandé à Camille la jeunesse de ces images. Et donc, quand elle était au Vanuatu pour réaliser une vidéo qui s'appelle Coupé décalé, qui a été présentée au Palais de Tokyo il n'y a pas longtemps, c'est cette vidéo où il y a des hommes qui se jettent dans le vide, hein, qui sont accrochés par des lianes aux pieds, et c'est un rituel de passage à l'âge adulte, en fait, donc de ce peuple au Vanuatu, donc ils sautent effectivement dans le vide d'une très très grande structure en bambou. Bref, Camille était allée filmer ce rituel, et elle avait un jour rencontré une tortue qui venait de pondre, je crois, et elle avait souhaité absolument saisir le moment où les bébés tortues rejoignent la mer. Et donc elle s'est allongée dans le sable avec son appareil photo ou sa caméra et attendait avec un processus comme ça d'observation du monde animal la tortue étant elle-même effrayée par la présence de Camille, évidemment. Et à force d'attendre, elle a été brûlée en fait par le soleil. Et donc elle a interprété un petit peu ces coups de soleil et ces brûlures comme une marque de la culpabilité de l'humain, qui a toujours un désir insatiable de voir les choses, de se les approprier, et de capter un moment aussi et d'en faire une représentation justement figée, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu ça qui est à l'origine de ces coups de soleil qui peuvent paraître assez étonnants dans cette exposition. Donc, et ce sont des faux coups de soleil, c'est-à-dire que c'est de la peinture.
Ah, c'est vrai.
Ouais. Voilà, bon, mais donc tout ça est assez amusant par rapport à ce que tu disais. Tu as parlé des angles aussi, donc tu disais que tu avais failli...
Oui, parce que là, comme il y a une narration aussi simple dans l'installation, ici, au moment, juste avant, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un cycle, mais un cycle qui utilise des murs perpendiculaires, donc ce qui, pour nous, évoque plutôt des ruptures, en fait, qu'une continuité. Et il me semblait aussi que la rupture, ça pouvait être un point de départ intéressant pour parler de la performance, de son rapport à l'imitation, peut-être de quelque chose qui est de l'ordre de l'accélération dans l'histoire du théâtre, comme aussi le raconte cette exposition. Et donc ce qui m'amusait beaucoup, c'était qu'au moment de, juste avant cette dernière accélération en ligne droite que propose l'installation, c'est qu'on a une image circulaire qui a été coupée comme ça, de manière un peu brouillonne. Et derrière, un livre probablement de scientifique qui est la représentation, donc qui porte sur les troubles de l'humeur. Et voilà, cette question aussi des troubles de l'humeur, de quelque chose qui serait disruptif dans les représentations, je trouve que c'est intéressant parce que non seulement... la rupture, c'est un paradigme de l'art contemporain qui n'existait pas auparavant, faire rupture. C'est aussi, je crois, une manière existentielle dont on construit nos propres romans de vie en essayant de faire des ruptures. Et je voulais faire le lien avec le dernier roman de Julia Deck. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Julia Deck, mais c'est une jeune romancière extraordinaire. C'est son deuxième roman, c'est À minuit. J'ai oublié le titre là au moment où je vous en parle. Et elle raconte l'histoire donc d'une femme qui, dit-elle par paresse, à un moment donné, choisit de changer de vie. Et c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, beaucoup perturbée, cette question des changements de vie, parce que c'est inscrit dans une forme de banalité dont nous abreuvent aussi, par exemple, les magazines féminins. Peut-on changer de vie ? Et c'est un lien assez évident entre la performance, si vous voulez, au quotidien, qui serait une nouvelle manière d'écrire nos destinées, et puis aussi la performance, l'art-performance au sens peut-être un peu plus disciplinaire du terme, qui est véritablement un art de représenter sans imiter. Voilà. Et de sortir, en fait, un art de la sortie permanente de l'imitation. Et c'est un fantasme de notre époque contemporaine, le fait de sortir de soi, de sortir tout court. Et c'est très fort ici aussi dans cette installation, le fait à un moment donné d'être inclus quelque part, mais on est aussi le moment de la sortie est tout aussi dramatisé que celui de l'entrée.
J'ai l'impression que dans la dernière partie, il y a un effet de répétition qu'on ne trouve pas dans les autres.
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui se dédoublent. Donc c'est à la fois lié à un clin d'œil en fait à la mythologie d'Ogon, qui est un petit peu le fil directeur de l'exposition, donc ce récit Le Renard Pâle de Kyle Fox, qui a été écrit par Marcel Griot et Germaine Dieterlin, qui est donc une étude anthropologique de la mythologie d'Ogon. Et la mythologie d'Ogon explique en fait que les ancêtres sont des êtres qui s'appellent les nomos, et les nomos naissent par père en fait. Et le personnage du renard pâle, qui est donc central dans ce récit et dans l'exposition de Camille en filigrane, est le seul des ancêtres à être né unique, seul, et s'est mis en quête du coup de sa sœur jumelle. Et donc il a essayé de précipiter un petit peu les choses, et par impatience et par volonté et curiosité de découvrir les choses, s'est mis à creuser la terre pour découvrir cette sœur jumelle. Et en creusant la terre, il a commis un inceste en fait avec la terre mère, hein, le dieu créateur, et a été puni pour cette faute en étant brûlé. Donc c'est le moment où Ogo, ce personnage d'origine, est brûlé qu'il devient le renard pâle. Voilà, et donc cette sculpture d'ailleurs est un petit peu une évocation de cet épisode de la transformation de Ogo. Enfin, le titre c'est La transformation d'Ogo en renard pâle. Voilà. Donc après, il y a évidemment beaucoup de liberté prise par rapport à ce mythe, mais voilà, c'est très présent. Et donc cette figure de la gémellité intéressait beaucoup Camille aussi. Et effectivement, on constate qu'il y a de plus en plus d'images qui se dédoublent au fur et à mesure de la frise. Il y a d'abord le loup ici qui apparaît deux fois, et puis les images des témoins de Jéhovah, enfin les publicités presque pour les témoins de Jéhovah qui se détriplent même. Puis la grenouille à nouveau, etc. Et voilà, donc il y a aussi une forme de schizophrénie. Moi j'interprète un peu ça aussi comme quelque chose qui se gripperait dans le mécanisme à un moment, comme la machine qui se grippe et qui produit des bugs. Parce qu'il y a voilà, aussi une dimension un peu liée à l'informatique.
Compulsive.
Oui, voilà. Ouais. Et donc quelque chose qui se met à se dédoubler à un moment donné, quoi, jusqu'à disparaître.
C'est riche, hein, c'est vraiment intéressant.
Il y a énormément de manières d'aborder cette exposition.
Oui, voilà. Moi j'aime bien parce qu'en même temps elle est ouverte et elle nous laisse la place pour nous. Elle est très signée et en même temps suffisamment mise à distance pour nous laisser de la place. On l'apprécie. Voilà.
Merci.